Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un troisième volet d'entretien dans Des clés pour vivre avec ce livre que je vous conseille, auditeur, devenez lecteur, les échecs de Jésus, une chance pour notre espérance avec vous. Et je vous dis bonjour, frère Jean Druel.
Bonjour Nathalie.
Alors, ici on parlait un peu, on en revient aussi à... Alors, vous avez conseillé donc la lecture des évangiles. Pour rencontrer Jésus, il est bon de lire la parole, de découvrir sa vie. Et donc, on retient aussi la lecture aussi de l'évangile de Marc, hein, l'évangile de Luc, ensuite de Matthieu, et terminé par l'évangéliste Saint Jean. Et si on parlait un petit peu à nouveau de cet évangile de Marc, où il parle des miracles, les miracles ne sont pas toujours parfaits ou spectaculaires. Que disent ces miracles dans la vie du Christ, frère Jean Druel? Des miracles pour fortifier le cœur des croyants, et à l'époque peut-être fortifier aussi ses disciples qui ont dit oui et qui ont fait le choix aussi de suivre Jésus à l'époque.
Le fruit de ma lecture, je ne suis pas exégète professionnel, mais ce dont je me rends compte à la lecture de l'évangile de Marc, c'est que ces miracles arrivent un peu malgré lui. Il n'est pas venu pour ça, il le dit explicitement, il veut annoncer le royaume, il veut donner un enseignement nouveau, mais il n'est pas venu d'abord ou d'emblée pour faire des miracles, et il les fait un peu quand il se laisse toucher par la belle-mère de Pierre, cette femme qui les accueille dans sa maison, qui les nourrit, qui les accueille, voilà. Il se laisse toucher par sa maladie, il la guérit. Un aveugle qu'on lui amène et les gens lui supplient, etc. Il se laisse toucher par... voilà. Et c'est parce que Jésus se laisse toucher par la misère des gens, la misère physique, hein, tout simplement, il se laisse toucher par la misère des gens, qu'il fait ses miracles, mais d'une certaine manière, c'est pas son plan initial, c'est un peu à contre-cœur. Et les gens, c'est ça qu'ils demandent. Et ce que je trouve absolument fascinant dans les miracles, dans les différents miracles de guérison que l'on voit dans l'évangile de Marc, c'est qu'ils arrivent après une supplication, ils arrivent après, etc. Et Jésus, petit à petit, va les laisser faire. Et il y a un monde entre le début de l'évangile où Jésus s'enfuit et va se cacher quand il est submergé par la foule qui demande des miracles, et la fin de l'évangile où il les laisse toucher son manteau. Ben, venez, touchez mon manteau, venez. Et tout le monde vient toucher son manteau et être guéri. Mais quel radical changement dans ses plans, dans sa vision de sa mission. Voilà. Et il découvre peut-être, il apprend petit à petit, que les gens veulent bien l'écouter, mais il veut d'abord être debout. Avant de s'asseoir pour l'écouter, les gens veulent d'abord être debout. Ils veulent d'abord être dignes. Avant de, ensuite, devenir ses disciples, écouter son enseignement, etc. Et ça, c'était pas ses plans. Et il le dit explicitement au début de l'évangile. « Je suis sorti pour annoncer le royaume. » Et quand les foules viennent le voir pour des miracles, il fuit. Il refuse. Il y a un moment qui est un peu un tournant dans ces miracles. C'est quand cette femme qui a des flux de sang vient toucher son manteau de dos. Et donc, d'une certaine manière, elle vole ce miracle, elle vole cette grâce. Lui ne sait pas qui l'a touché. Alors, il sait très bien ce que pensent les pharisiens. Il sait ce que pensent les gens. Quand il a la femme pécheresse à ses pieds, il sait ce que pense Simon. Mais il ne sait pas qui l'a touché. Et il se rend compte que c'est même pas lui qui a fait le miracle, c'est son manteau. Lui ne voulait pas faire le miracle, ne pensait pas faire le miracle, ne sait même pas qui. C'est son manteau qui a fait le miracle. Tout d'un coup, il est dépossédé même de cette espèce de capacité à faire des miracles. C'est Dieu qui fait le miracle et Jésus est l'instrument. Et d'une certaine manière, c'est son manteau qui fait le miracle. Et à la fin, il laisse les gens toucher son manteau. Il ne leur impose même plus les mains. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conversion, si je peux appliquer le mot à Jésus, une sorte de conversion, où son plan initial, bien rodé, d'aller de village en village annoncer le royaume, se transforme en « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, touchez mon manteau et trouvez-vous-en bien. »
C'est beau. Donc, quelque peu, il avait son programme de mission, et ce programme, finalement, était un peu bouleversé. Il a suivi, il s'est abandonné, il s'est laissé approcher.
Il s'est laissé émouvoir par les foules. Et c'est ça que je trouve le plus fascinant dans ma lecture personnelle de l'évangile de Marc. Je ne veux pas en train de généraliser, etc. Mais Ce que moi m'a touché dans l'évangile de Marc, c'est de voir comment Jésus se laisse bouleverser par les foules.
Qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement dans ce travail de l'évangile de Marc ?
excellente question. En fait, à chaque fois que... Moi, je suis venu avec mes lunettes un petit peu... Voilà, je vais chercher ce qui ne marche pas bien. Et c'est le texte qui me répond, mais toi, qu'est-ce qui ne va pas bien dans ta vie ? Pourquoi tu cherches ce qui ne va pas bien ? Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez la sœur Anne Lécu, une femme incroyable.
Qui a beaucoup écrit, qui écrit.
Qui a cette formule, au moment où on lit le texte de l'évangile, c'est l'évangile qui nous lit. C'est l'évangile qui nous lit. Et donc toutes nos questions, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce que Jésus a dit ? Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il n'a pas fait ça ? Etc. se retournent. Pourquoi c'est si important pour toi ? Pourquoi tu veux savoir si Jésus est mort seul ou pas ? Pourquoi tu veux savoir si Jésus s'est trompé ou pas ? Pourquoi tu veux savoir si... Et le texte, en fait, nous pose la question. Et en fait, on se retrouve un peu à nu devant le texte au moment même où on croit, un peu avec prétention, décortiquer le texte. C'est le texte qui nous décortique et qui nous dit, toi, pourquoi c'est important pour toi ?
C'est un chemin de dépouillement intérieur, un chemin où l'intelligence, finalement, dans le travail, se met à genoux devant la croix de celui qui est plus grand.
Ah oui, parce que les questions sans réponse, il y en a de plus en plus. Mais ça, quand on lit l'évangile, quand on lit la Bible en général, il y a énormément de questions. Pourquoi Dieu se tait ? Pourquoi Dieu semble absent ? Pourquoi tel miracle ici n'est pas là ? Pourquoi ? Voilà.
Il y a des grands pourquoi aujourd'hui dans notre monde qui est en feu, notre monde qui est en guerre, notre monde qui est en pleine confusion. Les personnes qui nous écoutent peut-être ont aussi ce pourquoi de la question du mal et de la souffrance. Pourquoi ce Dieu permet-il tant de souffrance alors que le cœur de l'humanité, le cœur des hommes individuellement, à l'époque de Jésus, il guérissait les personnes aujourd'hui et celles qui vous écoutent, qui nous écoutent, sont en attente de miracles et de guérison et cherchent la guérison à tout prix et le bien-être. Et au fond, dans cette quête, il y a peut-être la quête aussi de Jésus.
Mais au moment même où on dit... Pourquoi tant de mal dans le monde ? Le texte nous répond, et toi dans ton cœur, pourquoi tant de mal ? Pourquoi toi tu pardonnes pas ? Pourquoi toi tu veux manipuler les autres ? Pourquoi toi tu veux attirer à toi des admirateurs ou des gens qui t'aiment ? Pourquoi toi ? C'est-à-dire qu'au moment même où on se dit pourquoi Dieu se tait, le texte nous répond, et toi pourquoi tu te tais ? Pourquoi tu ne dis pas ce que tu penses ? Pourquoi tu n'annonces pas ce que tu dois annoncer ? Pourquoi tu ne vis pas ce que tu veux vivre ? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une espèce de dialogue, et c'est ça qui nous dépouille dans la lecture, c'est qu'on se dit « Ah, il y a beaucoup de mal dans le monde. » Ah oui, et toi, dans ton cœur, il n'y a pas beaucoup de mal ? Toi, tu es un être pur et parfait, et tu aimerais que Dieu agisse, mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, il y a une espèce de moment où quand on questionne le texte, on se trouve questionné par le texte.
Et c'est ce qui s'est passé même pour vous.
C'est quand ce vous qui s'est avez, passé pour moi.
Tout au long donc de l'étude, du travail autour de l'évangile de Marc, c'est un vrai dépouillement, même pour un frère dominicain des années de vie dominicaine.
Un ami égyptien me disait, parce que évidemment, le livre est traduit en arabe et les gens étaient un peu choqués par le titre. Et un ami me dit, tu sais, il y a deux types de personnes, il y a des abeilles et il y a des mouches. Les mouches, on sait ce qu'elles cherchent, où est-ce qu'elles se rassemblent. Pour ça qu'on dit des mouches à... Et moi, je me suis rendu compte que c'était moi, la mouche. Je suis allé lire le texte en cherchant tout ce qui ne marche pas, en cherchant tout ce qui était... Et je dis, mais pourquoi est-ce que moi, j'ai ce regard d'aller chercher ce qui ne marche pas ? Et au moment où je vais dans le texte regarder, explorer avec un papier, un crayon, tout ce qui ne marche pas dans le texte me dit, mais toi, pourquoi tu regardes ce qui ne marche pas ? Regarde ce qui marche ! Et ça fait... Tout d'un coup, on se trouve lu par le texte. On se trouve lu par nos questions. On se trouve questionné par notre lecture. Et je me suis dit, waouh ! Mais oui, mais moi, je suis en train de chercher la petite bête, pour ne pas dire autre chose. Est-ce que je ne peux pas devenir une abeille qui va chercher là où est le pollen, là où sont les fleurs, là où est la vie, plutôt que d'aller d'emblée chercher tout ce qui ne marche pas ? Et la lecture m'a retourné.
Et vous savez aujourd'hui pourquoi vous cherchiez ce qui ne marchait pas ?
Parce que dans ma vie, ça ne marche pas. Mais il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Et tout d'un coup, je me dis, mais il n'y a pas de raison. Et c'est comme ça que ça avait commencé. Je n'arrivais pas à préparer ma prédication pour mes sœurs. Et je me suis dit, oh, mais Jésus aussi a certainement connu l'échec. On va les regarder. Mais c'est parce que moi, j'étais en situation d'échec. Et je me suis dit, mais quand même, après 30 ans de vie religieuse, j'ai rien à dire à mes sœurs. Mais c'est dingue. Je me suis dit, j'étais en situation d'échec. Je me suis dit, mais je ne voulais pas recycler une vieille soupe que j'ai déjà sortie à droite, à gauche. Et je me suis dit, non, je vais trouver un truc nouveau et je n'avais rien à dire. Mais comment ça se fait quand on est après 30 ans de vie religieuse, on n'a rien à dire? C'est bizarre, non? Et donc, je me suis dit, oui, mais Jésus aussi. Et donc, je suis allé chercher ce qui ne marchait pas dans sa vie. Mais c'est parce que c'est dans ma vie à moi que ça ne marchait pas.
Intéressant. Merci, là c'est pour chacun d'entre nous. Hein. Merci de vous être un peu livré. C'est aussi des leçons de vie et le Seigneur est bon avec chacun. Frère Jean Druel, donc infiniment merci pour aujourd'hui. Et puis pour demain, vous restez avec nous. On enregistre pendant cette période du rosaire. Vous êtes de passage ici à Lourdes, donc depuis le Caire, hein, voilà, cité mariale. Et vous avez écrit ce livre, Les échecs de Jésus, une chance pour notre espérance. Beaucoup aussi doivent, en vous écoutant, penser aussi à l'échec de leur propre vie, peut-être dans leur propre choix au quotidien, parce que la vie s'incarne dans le quotidien, dans nos choix, dans nos refus, dans nos résistances, dans une vie ordinaire, mais qui peut devenir extraordinaire selon aussi les oui et les non, et les prises de position et puis les abandons que nous vivons ou que nous refusons de vivre. Voilà, car le but de la vie chrétienne, au fond, c'est de pouvoir dire un jour, Père, que ta volonté soit faite. À demain, frère Jean Druel.
Merci.